Alors, je vais parler d'un voyage que j'ai fait au Pérou pendant 2 ou 3 semaines. Je me souviens plus exactement parce que ça fait partie d'un long voyage que j'ai fait dans toute l'Amérique latine pendant plusieurs mois, il y a 7 ans. Donc, il y a des parties qui sont très claires dans ma tête et d'autres qui sont beaucoup plus floues, mais qui reviennent quand je regarde la carte du Pérou, par exemple, ou les quelques photos que j'ai prises, puisque j'en ai peu. C'est un voyage pour lequel j'ai pas emmené enfin j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'appareil photo numérique, j'avais des appareils photo jetables que j'achetais au fur et à mesure que je faisais développer peu à peu. Donc à chaque fois, ils étaient développés dans un pays différent avec plein d'accidents, parfois les couches qui étaient déplacées, des éclats d'acide, je sais même pas comment on développe un appareil. Une pellicule photo. Mais donc voilà, j'ai quelques photos comme ça qui me restent et qui sont devenues un projet différent en plus. Donc je n'y associe même plus un lieu en fait. Elles sont devenues des images un peu séparées qui font partie de mon souvenir de ce voyage. Mais c'est rare que je les re-regarde en me disant « Ah oui, ça c'était à tel endroit. »
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Valentine raconte le Pérou. Avec elle, on a parlé du Machu Picchu, de mariage de lama et d'engagement associatif qui tourne mal.
J'ai bourlingué à travers le monde. Et du coup, je me suis dit que j'allais juste mentionner d'abord les choses qui me restent vraiment du Pérou. Déjà, le fait que j'avais pas particulièrement envie d'y aller. J'ai une de mes amies qui est allée il y a longtemps, je crois qu'elles étaient 3 ou 4 filles, et elles se sont fait kidnapper dans un taxi, rançonnées. Donc j'avais ce genre d'image en tête, et même au cours de mon voyage dans le reste de l'Amérique latine, la plupart des gens m'avaient raconté des histoires aussi au Pérou, ils s'étaient fait. Enfin, je sais pas, agressé dans la rue. Enfin, bizarrement, le Pérou, c'était un peu cet endroit-là, quoi. Et je suis vraiment arrivée en plus, arrivée en bus par Huaquillas, qui sont toujours, enfin, les villes frontières, c'est toujours un peu craignos. Et j'ai vraiment mis un pied au Pérou en ayant l'impression que tout allait se passer mal à partir de ce moment-là. Et au fur et à mesure des semaines que j'ai passées là-bas, je me suis rappelée que petite, j'avais énormément envie d'aller au Pérou. En fait, j'avais des petits bouquins qui s'appelaient les carnets de voyage de Tintin, et il y en avait un sur le Pérou. Et bizarrement, en fait, ça m'avait vachement marqué, et j'avais hyper envie d'y aller. Et du coup, ça m'est revenu au bout d'un moment parce que, évidemment, enfin, j'ai quand même passé des super moments au Pérou. Il y a des endroits qui sont magnifiques. Et je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, en fait, j'avais vraiment envie d'y aller. Donc, c'est un voyage qui a été un peu avec beaucoup de hauts et de bas. C'était un peu un moment de mon voyage où j'ai eu des moments très heureux et d'autres où j'étais vraiment déprimée, quoi. Et c'est aussi un moment où je faisais que de monter en altitude et redescendre. Donc, en fait, ça allait un peu avec ça aussi. Je me suis rendu compte que l'altitude m'affectait pas mal au cours de ce voyage. Et du coup, ouais, vraiment les endroits dont je me souviens le plus, c'est un monastère à Arequipa que j'ai visité un soir, et il y avait une ambiance hyper étrange, un peu mystique. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui le visitaient et il n'y avait pas de lumière électrique dans ce monastère. Donc au fur et à mesure que le jour baissait, bah, tu étais vraiment de plus en plus dans le noir, tu passais d'une pièce à l'autre. Typiquement, comme plein de vieilles maisons ici, et donc de vieux monastères aussi, tu passes pas facilement d'une partie jardin où tu avais une vue sur la ville et les montagnes derrière, avec le soleil couchant, et tu re-rentres dans des pièces très petites en pierre. C'était hyper beau comme endroit et en même temps un peu flippant. Donc ça m'a vraiment marqué. C'est une image, enfin c'est Ça reste comme une image assez forte, imprimée. Et le deuxième endroit qui m'a vraiment marqué, c'est le Machu Picchu, que j'ai failli ne pas visiter, bizarrement. Je suis arrivée à Cusco à un moment où j'étais vraiment pas en forme. Je me souviens d'aller aux toilettes dans l'hostel où j'étais pour pleurer, parce que j'avais pas envie de le faire devant les gens, dans le dortoir. Donc j'étais vraiment pas en forme. J'avais rencontré quelqu'un avec qui j'étais pendant quelques temps, mais c'était vraiment parce que j'avais pas envie d'être toute seule. C'était vraiment pas quelqu'un qui me convenait. Pourtant, il était adorable, mais c'est un de ces moments aussi typiquement où tu te regardes un petit peu de l'extérieur et tu te vois faire des choses qui sont tellement pas toi. Il était chanteur de reggae. Je déteste le reggae. Il vivait dans une coloc, mais tout le monde se réveillait à n'importe quelle heure, tout le monde fumait des pétards tout le temps. Enfin, en fait, je voyais tout ça. Au moment même où je le vivais, j'étais un peu en dehors de moi en train de me regarder, de me dire « mais c'est tellement drôle que ce soit toi qui te retrouves à faire ça ». Et donc voilà, on a passé un peu de temps ensemble. Et mon prochain stop, normalement, c'était le Machu Picchu. Et j'avais la flemme. J'avais juste la paresse d'aller faire cet endroit-là. C'était peut-être le seul endroit du Pérou dont j'avais vu des photos à l'avance sur Google, enfin les photos que tout le monde a vues. Et du coup, rien que pour ça, ça me tentait moins. Et j'ai été vraiment tentée de me partir sans le voir. Et finalement, au dernier moment, je me suis dit « Non, allez, tu y vas. » Je suis partie un peu sur un coup de tête, très tôt un matin. Et j'ai fait le trajet. Il me semble que la première partie, en fait, j'ai fait le trajet en bus. Parce que je crois que tu peux faire tout le trajet en train jusqu'à Aguascalientes, qui est le petit patelin qui est en bas du Machu Picchu. Et moi, il me semble que j'ai fait une première partie en bus et que du coup, je me suis un peu baladée dans cette vallée dont j'ai oublié le nom, juste avant le Machu Picchu. Mais dans des bleds qui s'appellent genre Ollantaytambo, vous vous souvenez de ça? Enfin, vraiment des noms, j'imagine, qui sont assez typiques des gens qui vivent là-bas. C'est d'ailleurs Ollantaytambo. C'est le seul endroit où j'ai été malade pendant tout mon voyage. C'est le seul endroit où j'ai bu un jus d'orange, je pense, avec de l'eau qui devait être un peu bof-bof. Et où j'étais très contente d'avoir suivi le conseil d'un de mes potes qui, avant mon voyage, m'a dit « Toujours, toujours un petit rouleau de papier toilette dans ton sac. » Donc voilà, donc j'ai fait ce parcours-là. J'ai pris le train, finalement. Je suis arrivée à Aguascalientes. Et là, on m'avait dit « Si tu veux aller voir le Machu Picchu avant tout le monde, tu te lèves à 5 heures, tu montes à pied et tu arriveras avant le premier quart qui devait être à 6h30, un truc comme ça. » Donc j'avais l'intention d'aller me coucher tôt et je suis montée sur la terrasse, il y avait une terrasse en haut de l'hostel avec un bar, il y avait encore personne en me disant ouais, « je vais lire mon livre tranquille et je vais aller me coucher ». Donc je suis sur cette terrasse avec l'intention de lire mon bouquin et le barman c'était un américain qui bossait dans l'hostel et qui commence à discuter un peu avec moi « tu viens d'où, tu fais quoi ?» Et vraiment, sur le moment, je me suis dit « Ah non, j'ai pas envie d'avoir cette conversation habituelle où il faut que tu racontes ton voyage, que tu viens de tel endroit. » Enfin, c'est toujours la même histoire. Et il se trouve qu'en fait, cette conversation s'est vraiment transformée en une des conversations les plus intéressantes que j'ai eues pendant tout mon voyage. Et lui, c'était quelqu'un qui, je crois qu'il devait avoir une trentaine d'années, il venait de divorcer après 10 ans de mariage. Et on a parlé de plein de choses, on a parlé de volontariat parce qu'il a eu une expérience assez intéressante. Il faisait du volontariat dans une asso qui voulait aider un petit village dans un coin paumé dans la montagne à avoir l'eau courante, l'électricité. Enfin peut-être qu'ils avaient déjà l'eau courante. L'électricité et une route goudronnée pour pouvoir accéder au village facilement. Et en fait ils se sont battus un peu avec le gouvernement pour qu'ils aient tout ça, ils ont réussi. Sauf que, du coup, les gens ont commencé à avoir des factures à payer, l'électricité, etc. Et qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, donc ils ont dû quitter le village, parti, pour aller s'installer en ville, pour pouvoir bosser. Et ça l'a un peu frappé, et c'était un peu une part des pensées que j'avais aussi sur l'associatif, parfois un peu paternaliste, occidental, qui vient en Amérique latine ou dans notre coin, enfin. Enfin, en tout cas, c'était une réflexion sur tout ce que tu fais a des conséquences et c'est pas toujours possible de les prévoir, mais c'est d'autant plus intéressant quand ça vient d'un extérieur qui dit « Ah non, mais attendez, vous pouvez pas vivre comme ça, il vous faut ça, ça, ça. » Et du coup, au lieu de me coucher tôt, j'ai dû discuter jusqu'à 2h du matin, un truc comme ça, mais sans regret. Et je me suis quand même levée à 5h du matin le lendemain avec vraiment une espèce d'énergie du genre « je vais gravir cette montagne ». Et malgré le fait que c'était quand même un peu en altitude et que moi, je le sens bien, je suis montée en, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, et cette montée, elle était incroyable parce que il y avait tous les nuages au début, c'était vraiment brumeux. Et tu montes sur cette montagne qui est évidemment pleine de végétation et qui a une forme un peu étrange, arrondie en haut. Enfin, tu vois les montagnes alentour, en fait, qui ont ce genre de forme en chapeau arrondi, j'ai envie de dire, en haut. Et au fur et à mesure que je montais, avec le matin qui se levait, les brumes commençaient à s'estomper et tu voyais de plus en plus le paysage autour. Et du coup, je suis montée jusqu'à au-dessus du Machu Picchu, là où d'où tu as cette vue que tu vois souvent justement sur toutes les photos. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'il a commencé à faire jour. Et c'est fou parce que quelqu'un d'autre m'en avait parlé en me disant « Tu verras, c'est vraiment un endroit spécial. » Et c'est vrai. Enfin, c'est vrai que tu peux l'avoir vu en photo et je pense pour autant que d'y aller, c'est magique. Et en fait, c'est émouvant de voir cet endroit et de se dire que les gens y vivent pendant longtemps, un peu cachés du reste du monde. Et en plus, ce qu'on voit, c'est, je ne sais plus, un pourcentage assez petit apparemment de toute la cité parce que le reste n'a pas été débroussaillé et c'est complètement dans la jungle, encore sous la terre, des arbres. Donc voilà, en fait, ça a été vraiment une belle expérience d'aller voir le Machu Picchu. Après, tu restes 4 heures maximum, je me faufilais un peu vers des groupes histoire d'écouter ce que tel guide disait un peu sur le lieu, mais pas appris grand-chose d'intéressant. Et je suis redescendue. Et c'est ça qui a terminé mon voyage au Pérou. Après ça, je suis partie en Bolivie. Mais voilà, c'est resté un des moments qui m'a vraiment marqué avec Arequipa. Pourtant, Cusco, c'est une super jolie ville. Je pense que plein de gens ont adoré. Moi, j'ai vraiment aimé Arequipa. J'ai trouvé que c'était hyper mignon aussi. Ce genre de ville entourée par des montagnes, enfin, en général, j'aime bien. Et d'Arequipa, j'étais allée voir le canyon del Colca, qui est juste à côté. J'avais passé 2 jours, où t'as des super beaux spots pour voir les condors passer. Et où c'est la première fois que j'avais vu ces espèces de lamas qui s'appellent les vicuñas. C'est comme des lamas, mais avec un cou très droit et des longs cils. Et je me souviens d'avoir discuté avec une vieille dame qui m'avait expliqué que dans tous les villages alentours, en fait, ils rassemblaient les vicuñas une fois par an et que chacun était parrain ou marraine d'une vicuñas en particulier, ce qui veut dire qu'ils arrivent tout de même à les reconnaître les unes des autres. Et en fait, franchement, quand elle m'a raconté ça, je me suis demandé si c'était vrai. Et elle m'a dit que quand les vicuñas devenaient adultes, ils faisaient une sorte de cérémonie de mariage. Donc où ils les mettaient ensemble, mais apparemment ils vont en troupeau, donc de 2 troupeaux différents. Et que la femelle ou le mâle allait ensuite aller dans l'un ou l'autre troupeau. Donc il devait quand même quitter son troupeau pour aller dans le troupeau de l'autre animal. Et là, elle m'explique que comme c'est un moment très, très stressant et angoissant pour la vicuña de partir, elle m'a expliqué qu'il fallait lui faire un long câlin avant de célébrer le mariage, finalement. Voilà, j'ai écouté cette histoire là-bas, en me demandant vraiment si cette femme divaguait. Mais en même temps, elle avait vraiment l'air d'avoir toute sa tête. Donc, c'est possible que ça se passe vraiment. Faut peut-être y aller juste au bon moment de l'année. Et à ce moment-là, je voyageais avec une autre Française que j'avais rencontrée un peu en chemin. Et du coup, on a décidé de partir vers Huaraz, qui est une ville beaucoup plus en altitude, mais toujours sur la partie ouest. Et de là, tu peux aller faire des treks dans la montagne, très cool. Et donc, typiquement, on a pris un de ces bus de nuit qui part vers 10h ou minuit et qui est censé arriver à 1h, genre 7h du matin, qui te permet de commencer ta journée. Sauf que franchement, j'ai jamais pris des bus aussi tarés qu'au Pérou. Ils conduisent n'importe comment. sur les routes de montagne. Donc de toute façon, tu peux pas dormir non plus, parce que t'es secoué de tous côtés. Et on est arrivé à 4h30, 5h du matin. Genre l'heure où t'as très envie d'aller te balader dans une ville que tu connais pas. Donc je suis contente qu'on se soit retrouvés là toutes les deux. On est parti de la station de bus et on marchait. Et tout à coup, quelqu'un nous a alpagué. Un homme qui devait avoir à peu près notre âge. Et il nous a dit « Ah, les filles, vous cherchez un hostel ?» On lui a dit « Bah oui, justement. » Et il nous a emmenés dans son hostel qui tenait avec ses deux frères. Donc on s'est installés là-bas. Ils étaient super sympas. Enfin, ça s'est révélé être un bon choix, quoi, de se retrouver avec eux. Et je crois que c'est eux qui nous ont conseillé d'aller... Enfin, un guide pour aller faire un trek jusqu'à une lagune qui s'appelle la Laguna 69 et qui est à, genre, 4600 mètres d'altitude. Et je me suis dit que ça serait nickel parce qu'en Équateur, j'avais fait un glacier à 5000 sans aucun problème. Donc, je pensais que j'avais pas de problème de mal d'altitude. Sauf qu'en fait, entre deux, moi, j'étais repassée par la côte... Et que du coup, cette marche jusqu'à 4600, ça a été tellement dur. Je suis partie sans chapeau aussi, enfin sans casquette. Y arriver, c'était dur. Et en fait, vraiment, la redescente, c'était là où j'étais le plus mal. J'ai mis tellement de temps à arriver jusqu'au bus en rentrant. Et pourtant, c'était un endroit mais fabuleux. C'est une de mes photos préférées, en fait, de tout mon voyage, c'est cette lagune-là. Et là, juste avant le podcast, j'ai regardé sur Internet... pour retrouver des photos de cette lagune, et ça m'a frappé combien... Enfin, même en photo, elle est incroyable. Je me souviens qu'il y en a quelques-uns qui sont allés se baigner à 4600 mètres d'altitude, ça devait être glacial. Mais ouais, en tout cas, la marche pour y monter et la lagune était superbe, et la redescente était super dure, et j'ai fait la connerie ensuite d'aller m'étaler au fond du minibus tellement j'étais morte, donc je me suis pris encore plus tous les tournants et tout... Et je les ai fait arrêter au bout de 15 minutes pour aller vomir dehors parce que j'étais trop mal. On est rentré à l'hostel dans cet état et là je me suis dit « Ouais, je vais aller prendre une douche chaude. » Ah oui, parce que c'est un truc aussi, il faut demander en général dans les hostels s'ils ont l'eau chaude. Et souvent on te dit « Oui, mais quand même c'est non. » Et là il me l'avait assuré, il m'a dit « Oui, on a l'eau chaude et tout, il n'y a pas de problème. » Je suis arrivée dans la douche et tout, j'ai allumé, impossible d'avoir de l'eau chaude. Et là j'étais dans une fureur, je débarquais avec ma serviette... dans leur bureau en lui disant « Putain, il n'y a pas d'eau chaude, en fait. » Et il m'a regardé en disant « Mais si, Valentine, il y a de l'eau chaude. » Je lui ai dit « Non, 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 je t'assure, il n'y a pas d'eau chaude. » Il m'a dit « Laisse couler un petit peu plus, etc. » Je suis retournée. Je suis revenue en lui disant « Putain, il n'y a vraiment pas d'eau chaude. » Et je pense qu'il m'a vu. Il s'est dit « Putain, c'est chaud, elle est vraiment... » Enfin bref, elle est vraiment énervée. Il est venu avec moi. Et en fait, il a juste tourné l'autre bouton. Voilà. donc j'ai fini par avoir ma douche chaude. Et je présente mes excuses à distance à ce charmant propriétaire de l'hostel. Voilà, c'est à peu près ce dont je me souviens dans ce coin-là. Après ça, on est allé à Lima, ou alors j'y suis allée toute seule, il me semble. J'y suis allée toute seule à Lima. Et j'ai zéro souvenir de Lima. Je sais pas, ça m'a pas intéressée. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être un peu plus... Enfin, je pense comme dans tout voyage qui est un peu long, quoi. Et à un moment où tu te dis, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis en train de voyager toute seule? Qu'est-ce que je cherche? Etc. Et il y a eu pas mal de hauts et de bas qui se sont terminés par un haut avec le Machu Picchu. Donc voilà, j'ai quitté le Pérou, je suis allée en Bolivie après, où du coup j'ai eu moins de temps que je voulais, puisque j'avais passé plus de temps au Pérou que je ne l'aurais voulu. Mais oui, c'est un des endroits où j'ai le plus de photos qui me sont restées après. Et c'est marrant parce qu'avant que je parte, Enfin, comme tout le monde, je pense que tu pars en voyage souvent en te disant « Ah, j'espère que je vais avoir une grande révélation sur la vie qui va me faire comprendre quelle est ma voie, etc. » Bon, ce qui n'a pas été le cas, hein, voilà. Mais j'ai un pote qui m'avait dit « Quand tu rentreras, tu verras que ton voyage, ça restera quelque chose pour toi. Tu peux toujours retourner. » Enfin, ça restera vraiment comme un souvenir qui te tient vraiment chaud, quoi. Enfin, quelque chose qui est vraiment à toi. Et ça, et les photos de ce voyage, c'est vraiment ce qui me... Et c'est vrai, c'est vraiment un truc qui me reste. C'est comme une expérience qui est la plus personnelle qui soit quand tu pars tout seul, en plus, parce que il y a personne avec qui tu puisses en reparler, en fait.
Merci beaucoup pour ce récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Parce que, justement, c'est un voyage, c'est la partie de mon voyage où j'ai eu le plus de hauts et de bas. Et que, voilà, il y a un peu ce mythe du voyage où c'est toujours génial et en général, t'as un fantasme avant sur ton voyage qui se réalise rarement, enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et je trouvais ça bien de... Je trouve ça bien de rappeler en fait que quand t'es en voyage, t'es comme dans ta vie de tous les jours, quoi. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. T'as pas envie de rencontrer des gens, enfin. Et sauf que t'es quand même dans un endroit plus particulier où t'as pas de chez toi, donc tu peux pas te remettre dans ta coquille, te recroqueviller un peu quand ça va pas, parce que t'as pas de chez toi et que t'es tout le temps exposé en fait. T'es tout le temps dehors, même si bien sûr tu rentres dans un hostel, mais encore plus quand t'es en dortoir, etc. Et puis, et voilà le fait que le Pérou, ça a été vraiment l'endroit qui était à l'opposé du reste où je fantasmais vachement le pays à l'avance. Là, au contraire, c'était le pays où j'avais pas envie d'aller et où, au milieu du voyage, je me suis rappelé que si, en fait, j'avais super envie d'y aller.
De manière générale, avant de partir, est-ce que tu as un rituel de pré-voyage ?
Bah, pour celui-là, c'était le premier. C'était le premier voyage toute seule. Mais je dirais qu'en général, mon rituel, c'est de ne pas regarder de photos et c'est d'essayer d'emmener le moins de choses possible. Donc, plus je voyage et plus je deviens douée à ça.
Justement, en termes de préparation, vu que tu ne regardes pas de photos, comment tu te renseignes et quel est ton niveau de préparation avant de partir ? Et une fois que tu es sur place, quelle place tu laisses à l'improvisation ?
Franchement, mon niveau de préparation, il est très bas. C'est vraiment ça, je sais où j'arrive. J'ai peut-être... Dans le cadre de ce voyage-là, je savais dans quel pays j'allais. Et c'est tout. J'avais rien vu d'autre. Et en plus, comme j'avais pas de téléphone, de tablette, ni rien, quoi. Enfin, je voyageais avec un guide. En fait, je parlais aux gens et ils me disaient « Tiens, j'ai fait ça, c'était génial. » Et après, quand j'ai voyagé par la suite, maintenant, j'ai mon téléphone avec Internet, etc. Et je vois la différence quand même.
Pourquoi ?
Parce que je fais ce que tout le monde fait. Enfin, je veux aller dans un café, je cherche sur Google. Et en fait, ça fait que je demande beaucoup moins autour de moi. Je me mets vachement moins en fait en position que personne n'aime, quoi, d'un peu vulnérable, d'être dans la rue et de dire « Pardon, où est-ce que je peux trouver ça ?» Et c'est dommage parce que tu finis par aller aux mêmes endroits qui sont recommandés à tout le monde finalement.
Tu disais tout à l'heure que tu mettais de moins en moins de choses dans ton sac quand tu partais. Mais qu'est-ce qu'on va toujours trouver finalement dans ton sac, un objet que tu prends toujours avec toi ?
J'ai toujours ma lampe frontale qui m'a servi quand même, qui peut servir si tu te retrouves un peu trop tard dans une forêt, le genre de truc qui est vraiment arrivé, ou la nuit pour aller chercher, pour aller se lever dans la chambre quand tu dors en dortoir. Et même si parfois j'ai pas le même genre de voyage, je l'emmène quand même.
Bon, alors tu disais que pour ton voyage au Pérou et en Amérique du Sud, t'étais juste parti avec des appareils photos jetables. Alors pourquoi cette décision et de manière générale, comment tu documentes et comment tu racontes tes voyages ?
Je sais pas pourquoi j'avais aussi peu envie d'amener un appareil photo numérique, mais en tout cas sur place, enfin, je me souviens de voir les gens autour de moi prendre tellement de photos. Enfin, dès que t'arrives quelque part, de mitrailler un peu tout et encore une fois, c'est quelque chose que moi aussi je peux faire, surtout maintenant avec Instagram, etc. C'est tellement facile. Enfin, et puis avec un téléphone portable, avec appareil photo inclus. Mais en fait. Je regardais ça et je me disais, mais ça va où tout ça, quoi ? Enfin, c'est le nombre de photos que tu prends et que tu regardes plus jamais après. Et moi, je suis designer graphique et du coup, je passe mon temps à travailler avec les images. Et peut-être que ça leur a fait un peu perdre de leur valeur. Enfin, ou en tout cas, ça m'a donné envie de donner plus de valeur aux images que je prenais. Donc voilà, appareil photo jetable, t'as 24, ça dépend desquels, mais en général t'as 24 photos à prendre. Et du coup tu choisis bien, celles que tu prends. Ça veut dire que ça devient des photos importantes pour toi en gros. Et j'avais aussi un carnet où je prenais des notes, Et au début, je me forçais à essayer d'écrire tous les jours et à prendre des notes dans l'ordre chronologique. Et en fait, au dernier moment, je me suis dit, non, enfin, tu les prends au moment où ça vient et c'est pas obligé d'être chronologique et tu peux... Enfin, et donc, j'ai gardé ce carnet que je relis de temps en temps, d'ailleurs, c'est cool. Et par contre, à côté de ça, j'ai pas fait de blog ni rien, j'avais juste... comme j'avais pas de portable et qu'il fallait que je dise un peu aux gens que je connais, à ma famille, que j'allais bien, je mettais juste une ligne sur Facebook de temps en temps, genre à tel endroit, ou à tel endroit, mais hyper, hyper court, donc c'est la seule manière dont j'ai documenté ça.
Une fois que t'es de retour au pays, est-ce que tu es atteinte de ce qu'on peut appeler le blues post-voyage ou le spleen du retour? Et si c'est le cas, comment tu te soignes?
Ouais, je pense que je suis atteinte de... Moi, quand j'ai plutôt tendance à être un peu anesthésiée, à me sentir un peu anesthésiée, et en plus, ça pas, c'est la difficulté de se remettre dans le rythme de ta vie habituelle, j'ai envie de dire. Mais ouais, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de faire toutes les choses que j'ai remarqué que j'aimais bien faire pendant mon voyage. Et par exemple, une d'elles, c'est prendre le temps pour mon petit déjeuner. Voir lire, regarder une série pendant mon petit-déj, bah, en fait, je préfère me lever une heure plus tôt et faire ça, et ça me rend bien plus heureuse pour tout le reste de la journée. Donc, j'essaie de faire des choses comme ça, en général, quand je rentre, et de prendre un petit peu mon temps pour me remettre dans le rythme.
Comment tu considères les rencontres en voyage? Est-ce que tu vois les personnes que tu rencontres comme des amis à usage unique, ou est-ce que tu as tendance à garder contact une fois que tu es de retour au pays?
Je dirais ni l'un ni l'autre, parce que j'ai pas tellement gardé contact avec les gens que j'ai rencontrés pendant ce voyage. Et pourtant, par exemple, il y a une ou deux, enfin, une personne en particulier avec qui vraiment j'ai eu une espèce de crush amical, quoi, où tu passes deux semaines ensemble et t'as l'impression d'être super proche. Enfin, d'ailleurs, tu l'es, je pense. Mais, bah, voilà, après, la vie fait que tu vis dans deux villes différentes et que je suis pas hyper fan de téléphone, etc., en général. Donc, c'est plutôt par la force des choses qu'on n'est pas resté en contact. Et le reste des gens, j'ai pas forcément ressenti le besoin, en fait, de rester en contact avec eux. Mais ça veut pas dire que ça comptait pas sur le moment, en tout cas, comme rencontre. Et après, dans d'autres voyages, où j'ai rencontré des gens que j'ai continué à voir, mais parce qu'ils habitaient à Londres, comme moi, ou... Voilà.
Pour se parler du futur un petit peu, est-ce que tu as, je sais pas, une wishlist ou des projets, des fantasmes de voyage que tu aimerais réaliser dans les mois ou les années à venir?
Alors, j'adorerais aller en Antarctique, mais c'est pas très facile. Il y a une semaine, j'ai parlé avec quelqu'un qui va faire une résidence d'artiste en Antarctique, donc un mois là-bas. Et je pense que... En fait, j'ai envie d'aller là-bas juste pour voir que du blanc. Donc ça, c'est un truc qui me trotte en tête, mais je pense que pour y arriver, il faut avoir un projet de ce type-là, quoi.
Et en plus accessible.
J'aimerais bien faire la route de la soie, en partant de peut-être de Venise, quelque chose comme ça, et d'aller jusqu'en Chine. C'est mon père qui m'a un peu filé ce truc-là, parce que lui, il est allé en Afghanistan étant jeune, et il a vachement aimé, il m'a dit que les paysages étaient incroyables. Et il m'a dit, je pense que tous les pays comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, enfin qui sont très peu touristiques, ont le même genre de paysage, et que ça doit être assez incroyable à faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais je ne sais pas encore avec quel mode de transport.
Une idée?
Bah, j'aimerais bien marcher un peu plus, en fait. Mais ça, c'est toujours un peu le point sur lequel je trouve que quand tu voyages seule, en étant une femme, ben, clairement, si j'étais un homme, il y a plein de choses que j'aurais fait. Enfin, en tout cas, j'aurais osé aller dans des endroits un peu plus paumés toute seule. Peut-être que je devrais, d'ailleurs. Peut-être que je pourrais. Et que c'est pas le problème.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. T'as un petit espace qui t'est réservé, donc si tu as une dernière anecdote à partager, un proverbe, une recommandation, c'est à toi.
Moi, je recommanderais un livre que m'a filé mon cousin avant que je parte faire ce voyage, de Raymond Depardon, qui s'appelle Errance. Et c'est, il raconte son un voyage qu'il a fait juste pour lui, parce que il est photoreporter et que à chaque fois qu'il a fait des voyages, en fait, il était envoyé par un journal ou quoi que ce soit. Et il raconte le voyage qu'il a fait pour lui, quoi. Et ça m'a inspiré non seulement côté photo, mais aussi par tout ce qu'il raconte.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur.